Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous êtes curieux, nous aussi, c'est le slogan de Graphite. Et si vous êtes curieux de l'actualité scientifique, eh bien vous ne pouvez que nous écouter. Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur Graphite, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet et le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM. Je m'appelle Jean-Noël et je suis encore et toujours accompagné de Carole. Bonjour Carole.
Salut Jean-Noël.
Comment vas-tu ?
Très bien, depuis la semaine dernière. Très
oui,
bien.
Ça, donc tu as pu préparer quelques articles depuis la semaine dernière et de nous proposer des choses encore intéressantes aujourd'hui. Je l'espère, vous pouvez suivre bien sûr l'actualité de Graphite sur notamment la page Facebook ou aussi sur Instagram, entre autres, si vous souhaitez être tenu informé de toutes les émissions que vous propose tous les jours Graphite et bien sûr sur le site internet graphite.net. N'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer des messages si vous le souhaitez. Nous sommes aujourd'hui le 14 mars. Pas mal de choses au niveau de l'éphéméride. En 1794, Elie Whitney dépose un brevet pour son cotton gin. C'est une machine égreneuse qui va séparer la graine du coton de sa fibre et donc ça va être vraiment utile. En 1900, aux Pays-Bas, le botaniste Hugo de Vries redécouvre les lois de Mendel sur l'hérédité. En 1986, il y a eu la sonde spatiale européenne Giotto qui passe à moins de 600 km de la comète de Halley dans la nuit du 13 au 14 mars 1986. Et le même jour, c'était la mise en service de la centrale nucléaire Superphénix à Cremelville qui avait fermé une dizaine d'années plus tard et qui est encore aujourd'hui en déconstruction. En 1995, il va décoller du Kazakhstan. Norman Taggart est le premier Américain à participer à un vol orbital russe. C'est la fin de la guerre froide. Hein. Nous sommes en 1995. Il va être accompagné pour cette première de deux Russes. En 2000, Bill Clinton, Tony Blair, non, ça c'est des noms qui ne nous rajeunissent pas ça,
il
lance
effet.
Un appel commun aux scientifiques du monde entier pour un accès libre au génome humain. Et enfin, il y a 4 ans, ExoMars est lancé pour étudier la planète Mars dans le cadre donc de ce programme ExoMars. C'est vrai que Mars, depuis 4 ans, on en entend très souvent parler, même si dans cette émission, depuis maintenant 2 ou 3 mois, c'est vrai qu'on entend un petit peu moins de choses, mais Mars est bien sûr toujours au cœur de l'actualité. Au niveau de l'éphéméride, de la naissance, le 14 mars 1692, là on va assez loin, c'est de Peter van Muschenbroek, physicien néerlandais qui va contribuer par ses leçons, ses découvertes et ses ouvrages à introduire en Hollande la philosophie expérimentale et le newtonisme, newtonianisme, pardon. Il a laissé d'importantes observations sur l'électricité, le magnétisme, le frottement, la cohésion des solides, la capillarité. C'est un peu l'époque où on touchait à tout. Il prit part à l'expérience de la bouteille de LED, qui est l'ancêtre du condensateur. Et il va imaginer aussi un pyromètre. Ça va permettre de mesurer la dilatation des barres métalliques soumises à une montée en température. Nous sommes quand même au début du XVIIIe siècle. C'est quand même assez important. Peter van Muschenbroek. Le décès il y a 2 ans, et on en avait parlé dans cette émission, le décès de Stephen Hawking, décédé donc le 14 mars 2018, physicien, théoricien, cosmologiste britannique, théoricien de renommée mondiale. Bien sûr, ses livres et ses apparitions publiques ont fait de lui une célébrité. Depuis l'âge d'une vingtaine d'années, Stephen Hawking souffrait d'une forme rare de sclérose latérale amyotrophique. Sa maladie progresse au fil des ans au point de le laisser presque complètement paralysé. Il est connu pour ses contributions dans les domaines de la cosmologie et la gravité quantique, en particulier dans le cadre des trous noirs. Son succès est également lié à ses ouvrages de vulgarisation scientifique dans lequel il discute de ses théories et de la cosmologie en général, en particulier bien sûr pour son immense ouvrage « Une brève histoire du temps », le décès donc il y a 2 ans de Stephen Hawking. On retrouvera également dans cette émission bien sûr tout à l'heure Anne Fleur pour InnoCity, et là on va partir plutôt en Afrique avec Anne Fleur et peut-être aussi avec Carole tout de suite ou pas.
Oui, tout de suite, allons-y.
Ça va être la destination maintenant africaine.
Voilà, ce sera la thématique et la transition pour l'émission d'aujourd'hui. Puisque comme promis la semaine dernière, je vous emmène donc dans le Sahara, mais il y a 10 000 ans. Alors attention, prenez vos maillots de bain, parce qu'il y a 10 000 ans, ça valait le coup. Et oui,
c'est vrai.
Oui, oui. Même si aujourd'hui, on visite d'autres choses. Hein. Les dunes, c'est joli, c'est poétique. Mais en fait, il y a eu une étude, donc c'est un article paru dans Science et Avenir fin février, de plus de 17 000 fossiles découverts dans le sud-ouest de la Libye, au cœur du Sahara, et qui révèle en fait que cette région qu'on connaît aujourd'hui aride, eh bien, elle était il y a des milliers d'années particulièrement humide. Pourtant, vous allez me dire, le Sahara, eh bien, c'est le désert le plus connu au monde. Peu de personnes savent en fait qu'auparavant, il était humide et que ses étendues d'eau grouillaient de vie. En effet, des fossiles collectés entre donc 2003 et 2006 dans l'abri sous roche, alors c'est la partie inférieure d'un escarpement protégé par une corniche et pouvant avoir servi d'habitat préhistorique. Deux, donc Takarkori, dans le sud-ouest de la Libye, tout près de l'Algérie. Eh bien, ces fossiles ont été étudiés par une équipe internationale de chercheurs et ont révélé la désertification progressive de la zone il y a des milliers d'années et le changement sauvage, les changements sauvages qui s'y sont opérés. Donc aujourd'hui, on connaît cette zone du Sahara comme chaude, aride, et les fossiles découverts dans celle-ci et couvrant une période allant donc de moins 10 200 ans à moins 4 650 ans, donc ça correspond à l'Holocène, eh bien, ils racontent une toute autre histoire. Donc c'est quasiment presque 20 000 fossiles qui ont été comptabilisés et passés au peigne fin. Tout d'abord, ils indiquent que durant cette période, la faune était diversifiée et que des groupes d'humains se sont établis dans le sud-ouest de l'actuelle Libye. Car cette région n'abrite pas seulement des fossiles animaux et végétaux, mais aussi des artefacts, des restes d'art rupestre, forcément témoins de l'occupation humaine du site. Sur le millier de spécimens découverts, 80% étaient des fossiles de poissons, entre moins 10 200 et moins 8 000, et 19% des fossiles de mammifères. Le reste étant des oiseaux, des mollusques, des amphibiens. Donc selon l'étude parue le 19 février 2020 dans la revue Plus One, donc très connue et renommée, la proportion d'animaux aquatiques est tombée à 40% entre moins 5900 et moins 4650 ans, tandis que celle des mammifères augmentait. Des traces de découpe et de brûlure ont aussi été retrouvées, des animaux étaient donc consommés, ce qui amène à une question, pourquoi un tel changement au cours du temps dans le régime alimentaire ? Puisque, évidemment, ils pouvaient continuer à consommer des poissons. Mais justement, il n'est pas certain que ce changement soit intentionnel ou qu'il soit lié à l'aridité croissante qui rendait l'environnement moins favorable à la survie des poissons. Alors, donc on n'est pas sûr en fait. Mais quoi qu'il en soit, les habitants se sont au fil du temps davantage tournés vers la chasse et plus tard l'élevage. Donc la consommation de poissons, elle a aussi changé à cause de ce facteur. Les clarias, c'est un genre de poisson-chat, sont devenus plus fréquents dans les repas que les poissons tilapia. Les poissons-chats possèdent des organes respiratoires accessoires qui leur permettent de respirer de l'air et de survivre dans des eaux peu profondes. Donc cette étude, elle relate de manière inédite, d'une part la désertification progressive de la zone, puisque c'est quand même ce qui expliquerait potentiellement la modification de ce régime alimentaire. Et donc l'abri sous roche de Takarkori, c'est un vrai trésor hein, pour l'archéologie africaine, puisque c'est un lieu fondamental pour reconstruire la dynamique complexe entre les groupes humains anciens et leur environnement dans un climat changeant. Donc les chercheurs, en fait, à cet endroit-là, ont accès à une mine d'informations beaucoup plus large que ce que relate cet article et permettront certainement de faire d'autres découvertes et d'autres avancées dans le domaine.
On va retourner en France avec ce titre de l'article de Futura Science que je trouve assez, je sais pas, des fois il y a des moments où on a envie de baisser les bras. L'article, le titre de l'article, c'est « Pesticides en France, ils devaient baisser de 50% et ils ont augmenté en fait de 25%. »
Comment c'est possible, oui.
Revenons en arrière, en 2009, la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement s'était fixée pour objectif une réduction donc de 50% de l'usage des pesticides en 10 ans. Un chiffre bien loin d'être atteint malgré les 371 millions d'euros dépensés tous les ans dans le plan Ecophyto qui est le principal outil de cette politique depuis 2012. Mais même avec le report de l'échéance en 2025, la réduction escomptée semble inatteignable. Selon la note de suivi publiée par le ministère de l'Agriculture il y a quelques semaines, la quantité de substances actives vendues en 2018 a progressé de 21% par rapport à l'année d'avant et ça atteint presque 86 000 tonnes, ce qui est énorme. Et on arrive à des hausses assez importantes également pour d'autres périodes, toujours dans cette décennie 2010. Mais question, comment donc expliquer cette hausse alors qu'il y a tant d'efforts qui sont menés pour réduire les produits phytosanitaires? Alors il y a d'abord des raisons spécifiques à cette année 2018 qui est un peu particulière parce qu'elle a connu une forte augmentation donc, de cette quantité de produits utilisés. La première raison, ce sont des conditions climatiques défavorables avec notamment de fortes pluies au printemps qui ont favorisé les maladies fongiques, donc les moisissures, les champignons et du coup ça a un peu aussi favorisé les insectes durant l'été. Les blés ont été attaqués par la septoriose, les betteraves par une autre maladie. C'est ce que rapporte, pour donner quelques exemples, le ministère de l'Agriculture. Deuxièmement, deuxième raison, c'est la hausse des taxes sur les produits sanitaires qui devait être mise en place le 1er janvier 2019, ce qui a conduit donc à une quantité d'achats anticipés l'année d'avant. C'est un petit peu l'effet stock. Mais sur le long terme, en fait, la tendance, elle s'explique d'une façon un peu paradoxale par les politiques de réduction elles-mêmes. On a interviewé Guillaume Cabot, qui est agriculteur en Seine-Maritime, et il explique « L'État nous a interdit toute une série de molécules très actives, ce qui nous oblige à les remplacer par des produits moins efficaces. On doit donc en mettre plus. »
Plus, oui.
Mais voilà.
Logique imparable.
Le développement de l'agriculture biologique a eu aussi des effets un peu pervers parce que les ventes de produits de biocontrôle qui sont donc autorisés en agriculture biologique ont également presque doublé. Alors, ces produits, ils sont d'accord censés représenter un plus faible risque toxicologique. Mais on peut se demander si les quantités massives qu'on utilise, eh ben finalement, est-ce que ça n'a pas aussi un impact sur les sols ? Les agriculteurs se défendent pourtant de tout abus. Ce même Guillaume Cabot explique « Je dépense 40 000 euros par an en produits phytosanitaires, donc j'ai aucun intérêt à en utiliser trop. » Il explique en fait aussi avoir fait de nombreux efforts en réduisant les doses, notamment pour le glyphosate. À l'époque, évidemment, il diluait également les doses. Mais en tout cas, c'est un petit peu cet effet un peu pervers qui est on interdit certaines molécules efficaces pour des raisons totalement évidentes. On parle aussi, bien sûr, de certains produits qui sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. Mais donc, de l'autre, on va utiliser des pesticides censés être plus « bio », entre guillemets, ou en tout cas être moins nocifs, mais qu'on va pouvoir utiliser d'une façon peut-être un petit peu plus... de façon un peu plus importante, en ayant bonne conscience. C'est-à-dire, quelque part, j'utilise du bio, donc ça va, donc je peux en mettre plus. Et donc, cet effet un peu pervers fait qu'au final, quand on a 10 ans de recul sur l'utilisation des pesticides en France, on n'a pas du tout baissé, au contraire, on a augmenté. C'est totalement assez bizarre et assez paradoxal, mais cette étude qui va clore un petit peu cette décennie totalement ubuesque permet peut-être, en tout cas on l'espère, d'avoir une prise de conscience dans l'utilisation abusive de ces pesticides parce qu'on est bien dans des productions de légumes, de fruits et de choses qui vont atterrir dans nos assiettes. Donc il faut vraiment faire attention, bien évidemment. Il y a des gros efforts de recherche également qui doivent être menés pour mettre au point des produits de substitution moins toxiques et mais plus efficaces avec des variétés qui vont être de plus en plus résistantes, des variétés d'insectes. Bien sûr, les nouvelles technologies comme les drones ou les robots sont également appelés à jouer bientôt un grand rôle parce que du coup, on pourra peut-être un petit peu mieux cibler les zones de dispersion de ces pesticides. Voilà, j'ai bien plombé l'ambiance, mais en tout cas...
Merci, c'est une... comme ça, c'est pas toujours de ma faute.
Mais ça reste malheureusement encore une réalité qui nous concerne tous.
Tout à fait.
Je n'ai aucune transition.
Exactement. Alors justement, moi, je me demandais si je me lançais dans une explication un petit peu longue, donc c'est un rapport avec l'actualité un peu de l'espace au niveau des découvertes, ou si tu voulais partir, continuer, rester en Afrique, comme...
Tu veux rester en Afrique pour aller au Sénégal ?
Pourquoi pas ?
Allez, on va partir au Sénégal avec Anne Fleur, qui, dans sa rubrique Inno City, nous présente toutes les découvertes qui, voilà, elle choisit une ville. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, elle le dit assez fréquemment dans sa rubrique, vous pouvez aussi nous donner quelques suggestions de villes ou de pays que vous souhaitez qu'elle étudie et qu'elle nous présente dans sa rubrique. Donc là, c'est le Sénégal. On va donc rester en Afrique. Tu as raison, comme ça, la transition est toute trouvée. C'est à toi, Anne Fleur.
Morning Compiègne, bonjour Jean-Noël, bonjour à tous. Alors, merci de me retrouver aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous amener dans une nouvelle région du monde pour en découvrir ces inventions. Alors, la manière dont je procède habituellement, en fait, c'est que je choisis vraiment, j'essaye de varier, donc tous les mois, d'aller faire un peu un tour sur tous les continents. Et je choisis les pays un petit peu à l'avance. Alors, pour la petite histoire, donc aujourd'hui, j'ai choisi de parler du Sénégal en Afrique. Et finalement, j'ai eu un petit peu de mal à trouver... Quelques inventions dont je pouvais parler. Et c'est pas du tout que les Sénégalais n'ont pas inventé beaucoup de choses, bien au contraire. Mais en fait, ce que j'ai appris, du coup, en faisant mes recherches, donc je vous partage cette petite anecdote, c'est que jusqu'à fin 1959, le Sénégal faisait en fait partie de la Fédération du Mali. Et c'est pour ça que c'est difficile de trouver beaucoup d'inventions qui sont propres au Sénégal. Voilà, petite parenthèse fermée. Nous partons donc aujourd'hui sur le continent africain. C'est parti, allons-y, découvrons un peu ce qui a été inventé au Sénégal. Alors la première invention dont je vais vous parler, c'est le Mbalax. Je ne sais pas si je le prononce bien, comme d'habitude, j'ai pas beaucoup de moyens de vérifier ma prononciation. Et donc c'est en fait dans les années 70 qu'on a vu l'émergence du Mbalax, qui est en fait un style de danse musicale qu'on a retrouvé en fait un peu dans les quartiers urbains du Sénégal. C'est en fait donc une danse qui est inspirée d'une jupe, N-J-U-U-P, qui est une musique qui vient d'un groupe ethno-religieux. Et en fait, le Mbalax utilise une langue qui s'appelle le Wolof au lieu du français qui est plus habituel là-bas. Et le Wolof est en fait couplé ou utilisé de pair avec des rythmes de batterie et donc dans le fond. Et c'est donc un style de musique hyper populaire. Et donc les grands musiciens du Sénégal, Mbalax, inclut Étoile de Dakar et Ramdan, pour ceux qui connaissent. J'en ai écouté un petit peu, j'en ai pas trouvé qu'il soit libre de droit pour vous en faire écouter, donc du coup je vous invite juste à aller sur Google ou sur YouTube, et c'est très sympa. Alors la seconde invention dont je vais vous parler, c'est le Fonio. La machine à Fonio. Alors la Fonio, j'étais mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fait la Fonio, c'est une céréale qu'on retrouve sur la côte ouest africaine, qui est très très nutritive et qui demande beaucoup d'heures de travail très très difficile pour séparer les graines de la plante. Et en fait un ingénieur sénégalais du nom de Sanoussi Diakité, a développé une machine qui a marqué vraiment un énorme pas en avant pour l'utilisation de cette graine et donc pour la nutrition du pays. Cette machine à tri en fait peut traiter jusqu'à 5 kg de fonio, donc de cette céréale nutritive, en seulement 8 minutes. Et elle marche soit à l'électricité, soit à l'essence. Et Diakité, donc cet ingénieur sénégalais, a reçu, pour la petite histoire, 7 récompenses pour cette invention, parmi lesquelles le Rolex Award, qui est très connu. Un autre point dont je voulais vous parler, c'est l'île qu'on retrouve donc au large du Sénégal, qui est faite uniquement de coquilles, de coquillages. Et en fait, c'est un projet hyper original, donc de recyclage, qui a été fait donc par des Sénégalais à partir de millions de coquilles, de coquillages. C'est hyper impressionnant. Les maisons, les allées, même les cimetières sont faits de coquillages. Alors ça défonce un petit peu les pieds, il faut être honnête quand on marche sans chaussures, mais c'est un vrai projet engagé de recyclage. L'île s'appelle l'île de Fadiout, F-A-D-I-O-U-T-H. Voilà, je vous invite à jeter un œil parce que c'est vraiment super intéressant. Bon, et alors, comment vous parlez du Sénégal sans vous parler de sport automobile? Ça a été donc en 1979 que la grande course Paris-Dakar a été nommée une des courses la plus difficile sur la planète. C'était et un test pour l'homme, le pilote, et un test pour la machine, puisque au cours de cette course, on devait donc traverser les terrains les plus dangereux sur Terre, et cela incluait de passer par le désert du Sahara. Malheureusement, avec différentes menaces dues au terrorisme et pas mal d'accidents qu'il y a eu, la course a été bougée. Elle s'appelle toujours le Paris-Dakar, mais elle a lieu depuis une dizaine d'années en Amérique du Sud. Bon, et alors, pour terminer, je voudrais terminer en parlant de films. Saviez-vous que le Sénégal est le premier endroit en Afrique qui ait été filmé dans un film africain ? Alors, Borom Street, qui a été un film hyper sensationnel, qui a été sorti en 1963 par le directeur, enfin le producteur, pardon, sénégalais Ousmane Seben. Et ben en fait, ça a été le tout premier film fait en Afrique par un Africain noir. Et c'est donc une grande source de fierté. Donc, bravo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tour du Sénégal vous aura plu. Si vous connaissez d'autres inventions sur des pays, des villes que je mentionne, n'hésitez pas à me les envoyer. Je serais ravie de faire une deuxième passe. Et puis bon, sinon, faut être honnête aussi. Chacun de ces pays est très riche, aussi bien culturellement, scientifiquement et technologiquement. Donc je suis forcément obligée de faire quelques choix. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci Anne Fleur pour le Sénégal. Le Fonio, effectivement, qui a un lien totalement avec l'éphéméride, étant donné qu'on vous disait qu'on fêtait aujourd'hui l'anniversaire d'Eli Whitney, qui lui avait inventé cette machine égreneuse pour séparer la graine du coton de sa fibre. Donc on est un petit peu dans cette même idée. Merci Anne Fleur. On se retrouve la semaine prochaine, je crois, si j'ai bien suivi les informations qu'elle m'a transmises. Nous resterons sur le continent africain.
Parfait.
Mais là, Carole, on va partir assez loin, oui. Assez haut.
Dans l'espace.
Ah, enfin.
Et on arrive sur un sujet un peu technique.
Ah mon Dieu.
Puisqu'il y a eu donc suite au dépouillement d'archives, en fait, des observations dans le domaine des rayons X par le satellite XMM Newton, eh bien, ce dépouillement a révélé une puissante éruption stellaire survenue en 2008. Donc on pourrait se dire, oh là là, mais ce sont des vieilles infos. Oui, mais il faut le temps de les découvrir. Et la surprise, c'est que cette éruption, elle provenait d'une naine ultra froide, donc normalement trop petite et trop peu lumineuse, en théorie, hein, pour produire une éruption plus forte que celle du Soleil en rayon X. Donc de quoi s'agit-il exactement? Les chercheurs se sont penchés sur le sujet et c'est un article donc, qui a été publié par Futura Science en février. Et qui relate que le 10 décembre 2019, l'ESA a fêté les 20 ans du lancement par la fusée Ariane 5, justement de XMM Newton, XMM pour X-Rays Multi-Mirror Mission. C'est un poids lourd des observations des rayons X dans l'espace. Les caméras du satellite sont parmi les plus sensibles et ces miroirs parmi les plus puissants jamais développés dans le monde de l'astronomie des rayons X. Par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière, on espère que personne ne prendra le contrôle de ce satellite. Bon, celui-là, il y a peu de chance, il est certainement un peu plus protégé que les autres. Et il a été rejoint dans l'espace tout récemment par le Hubble russe des rayons X, à savoir Spectre RG, donc SRG, qui malgré sa dénomination précise, qui signifie donc Spectrum Röntgen Gamma, n'étudiera pas le ciel gamma. D'ici les années 2030, c'est Athena pour Advanced Telescope for High Energy Astrophysics qui sera le successeur de XMM Newton prévu par l'ESA. On peut penser que même à ce moment-là, on continuera à faire des découvertes étonnantes dans les archives des observations puisqu'il faut donc dépouiller au fur et à mesure. Et c'est précisément ce qui vient d'arriver, comme l'explique une équipe d'astrophysiciens dans un article publié dans le journal Astronomy and Astrophysics. Les chercheurs y annoncent avoir découvert à leur grande surprise qu'une naine ultra-froide de type spectral L, donc c'est un astre en fait dont la limite entre le statut d'étoile naine rouge de type M et de naine brune n'est pas toujours très claire. Alors la classification du coup
des naines
n'est naine n'est pas non plus très très claire. On va essayer un peu d'expliquer un peu tout ça. Mais néanmoins, en tout cas, cette naine ultra froide était capable de produire l'équivalent des super éruptions solaires dans le domaine des rayons X. Alors, la naine, elle, présente dans le catalogue des observations de XMM Newton, sous un numéro assez imbuvable, hein, J03-3127, malgré une masse de seulement 8% environ de celle du Soleil et une température de surface de 2100 K par rapport à environ les 6000 K sur le Soleil, elle a tout de même tellement brillé en rayon X le 5 juillet 2008 qu'en quelques minutes, elle a libéré plus de 10 fois l'énergie que les éruptions similaires les plus intenses connues avec le Soleil.
Ah oui, quand même.
Oui, c'est pour ça que
petite
c'est...
Petite mais costaude.
Exactement, oui. Alors, c'est ce que nous explique dans un communiqué de l'ESA, l'astrophysicien Bates Telzer, de l'Institut donc en Allemagne, hein, qui s'appelle Für Astronomie und Astrophysik Tübingen, et de l'INAF, Observatorio Astronomico di Palermo, en Italie. Puisque donc, voilà, les différents laboratoires collaboraient sur cette découverte. Eh bien, c'est la partie scientifique la plus intéressante de la découverte, car nous ne nous attendions pas à ce que les étoiles naines, elles, stockent suffisamment d'énergie dans leur champ magnétique pour provoquer de telles explosions. Les astrophysiciens n'ont pas pour le moment d'explication à ce phénomène qui doit sans doute relever en partie de celle fournie pour les éruptions solaires avec la reconnexion des lignes de champ magnétique. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on est dans le cas en fait, de ce qu'on appelle une naine ultra froide, donc pas loin du seuil de masse où il n'est pas simple parfois de pouvoir dire si l'on est en présence donc en fait d'une étoile sur la séquence principale, bien que de très faible masse, ou dans le cas d'une naine brune produisant très temporairement de l'énergie par des réactions de fusion thermonucléaire de son contenu en deutérium. Donc oui, parce qu'en fait il y a une déclassification assez complexe avec des caractéristiques du coup assez différentes hein, au niveau donc de ces étoiles qui peuvent libérer théoriquement plus ou moins d'énergie et de différentes façons, si je résume. Donc ainsi, prédites théoriquement pendant les années 1960, les premières naines brunes ont été observées au milieu des années 1990. Ces astres, trop massifs pour être des géantes gazeuses comme Jupiter, doivent leur nom à Jill Tarter, qui était une exobiologiste. Alors, les astrophysiciens s'accordent souvent pour dire que ce qui différencie une étoile d'une naine brune est le fait qu'elle est suffisamment massive pour que des réactions de fusion thermonucléaire durable s'y enclenchent, comme celle décrite par la chaîne proton-proton ou le cycle de Bethe-Weizsäcker. On trouve alors des masses comprises entre 75 et 80 fois la masse de Jupiter, c'est-à-dire un seuil d'environ 0,07 masse solaire au-dessus duquel on est bien en présence d'une étoile au sens ordinaire du terme. Ça clarifie un petit peu les choses. Mais notre naine ultra froide, hein, J03-3127, avec une masse de seulement 8% environ celle du Soleil, ne serait donc pas une naine brune. En ce qui concerne le critère de distinction entre une géante gazeuse et une naine brune, les scientifiques utilisent généralement le seuil de 13 MJ, donc c'est par rapport à la masse de Jupiter, hein, MJ. Des réactions de fusion temporaire, en l'occurrence celle du deutérium, peuvent alors se produire, comme celle du lithium à partir de 65 MJ. Pour des naines brunes assez massives, on considère aussi que la pression qui s'oppose à la contraction de l'astre a une origine physique différente de celle que l'on trouve dans une géante gazeuse. Le phénomène qui entre en jeu est similaire à celui qui existe dans les naines blanches, à savoir la pression de dégénérescence d'un gaz d'électrons. Oui, on rentre dans... J'avais dit que c'était un petit peu technique.
Oui, c'est un peu technique.
Qu'est-ce qu'il faut retenir en fait de ce qu'on vient de dire ?
Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces
voilà,
naines ?
Le cours, la version simplifiée synthétique, c'est que la naine ultra froide de type spectral L, qui était donc présente dans ce catalogue d'observation hein, du satellite XMM Newton, elle a stupéfié les astrophysiciens puisque malgré une masse de 8% environ de celle du Soleil et une température de surface donc bien inférieure, hein, 2100 K, je le rappelle, par rapport aux 6000 du Soleil, elle a tout de même brillé et libéré plus de 10 fois plus d'énergie que les éruptions similaires les plus intenses connues avec le Soleil. On ne comprend en fait pas encore comment une naine ultra froide, donc trop petite et trop peu lumineuse, en théorie, peut produire une telle éruption. C'est pour ça qu'il y a eu une discussion là avant sur voilà, les naines brunes, les naines rouges, où est-ce qu'elles se situaient. Normalement, elle n'est pas dans ces catégories-là de ce que je comprends. Donc voilà, donc on n'a pas percé à jour les mécanismes qui permettent cette libération très importante d'énergie et du phénomène qui a été observé.
C'est vrai que c'est assez étonnant. Enfin, je trouve, oui, effectivement, petite mais costaude, ce qui résume bien la situation, mais parce que personne n'est capable de l'expliquer, en fait. Et on connaît un dérèglement climatique sur Terre, mais là, on est dans un dérèglement un peu spatial, on a l'impression, parce que c'est quelque chose de totalement inattendu.
Ou voilà, on va commencer à... Parce qu'encore une fois, l'espace a quand même encore, à mon avis, beaucoup de secrets à livrer, donc on est peut-être encore sur des phénomènes où on va se rendre compte que c'est possible, et après, on saura expliquer pourquoi.
On va écouter Stuck in the Sound sur l'antenne de Graphite. Oui, j'ai pas, je prends l'accent comme ça un petit peu parce que ça fait un petit peu plus américain, ça fait un peu plus genre on est un petit peu dans le move. Et on va donc écouter ça. Et après, on se retrouve bien sûr sur l'antenne de Graphite. Et nous allons revenir un petit peu plus sur des choses un petit peu plus terre à terre, mais on va parler d'animaux, donc ça va te plaire.
Ah, moi aussi, ça tombe bien.
Ben, c'est parfait. À tout de suite sur l'antenne de Graphite.
Graphite 94.9 FM.
Vous étiez en train d'écouter Graphite d'une oreille distraite en essayant de survivre à cette explication de Carole sur les
naines. Je me suis trouvé très clair.
Eh bien, heureusement que Stuck in the Sun nous a réveillés avec All Right. C'est vrai que ça remue pas mal et c'est assez sympa sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. On parle de l'actualité scientifique avec Carole. Actualité scientifique au sens large, technologie, on parle d'espace et on parle aussi un peu d'animaux. Alors Carole, si je me mets devant toi et que je te tourne le dos et que je remue du popotin, je te connais, tu vas mal le prendre, évidemment.
Évidemment.
Tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire ? Ça, bien sûr, ça ne va pas passer. Si c'est une abeille, ça, ça passe. Parce que les scientifiques savent depuis longtemps que les abeilles secouent leur derrière pour communiquer avec leurs congénères sur les champs de fleurs. Et une danse qui a été étudiée de près par une équipe de biologistes américains qui vient de décoder plus de 1500 de ces danses pour mieux comprendre leurs préférences alimentaires aux abeilles. L'objectif était d'aider à la protection des abeilles dont les populations, on le sait, déclinent. Chez les abeilles, la chose la plus intéressante est leur mode de communication. C'est ce qu'explique à l'AFP Morgan Carmichael, qui est doctorante à l'Université du Minnesota et qui est l'auteur principal de cette étude qui est parue dans la revue scientifique PLOS ONE. Elle explique « Je voulais exploiter cela pour aider les gestionnaires de terre qui voudraient planter au profit des abeilles. » Les deux questions principales en fait, des chercheurs, c'était de savoir quels types de fleurs sont les plus prisées pour leur pollen et leur nectar, qui sont les deux sources principales de nourriture des abeilles. Et deuxième question, et quand partent-elles à la recherche de nourriture ? Et donc, les biologistes ont mis des colonies d'abeilles dans des ruches d'observation vitrée sur deux sites dans le Minnesota. Avant la colonisation par les Européens, le Minnesota, dont la partie centrale du nord des États-Unis était couvert de prairies, eh bien celle-ci, elle n'a occupe plus que 2% de la superficie de l'État. C'est l'une des raisons du déclin des abeilles là-bas. C'est un déclin dangereux pour tout l'écosystème, bien sûr, puisque les insectes ont un rôle crucial dans le principe de pollinisation, bien évidemment. Et donc, pendant 2 ans, l'équipe a enregistré les danses des abeilles femelles sur un petit peu le dance floor qui se trouve, c'est une espèce de surface qui se trouve à l'entrée des ruches. Les abeilles effectuent une danse dans laquelle elles font vibrer leur abdomen de façon à décrire l'angle par rapport au soleil qui va indiquer la direction de la nourriture. Elles nous font une espèce de danse du ventre et donc elles vont incliner l'abdomen, il va y avoir un angle. Par exemple, quand c'est un angle de 0 degré, c'est la direction du soleil. Quand c'est 180 degrés, c'est la direction opposée. Quand c'est 270 degrés, c'est à gauche. Donc là, on va pouvoir localiser. Pour la distance, l'abeille fait varier la durée de la vibration de son corps. On estime à peu près qu'une seconde équivaut à environ 750 mètres. Enfin, plus la source de nourriture est abondante, plus l'abeille va répéter la danse et effectuer des rotations rapides. Le résultat des observations de ces 1500 danses, eh bien, c'est que les abeilles communiquaient plus fréquemment avec leurs sœurs à propos de sources de nectar dans des prairies vers la fin de la saison de recherche de nourriture, c'est-à-dire en août et septembre. En fait, ça pourrait expliquer le fait que les colonies vont se préparer à l'hiver. Les chercheurs ont aussi découvert quel type de fleurs étaient considérées comme très intéressant par les abeilles. Alors pour cela, ils ont isolé certaines abeilles. Ils les ont placées dans une espèce de cage glacée. Ça les a assommées. Comme ça, ils ont pu prélever, analyser, séquencer le pollen qui était chargé sous leurs pattes. Et Morgan Carmichael explique qu'on peut dire avec certitude que les abeilles classaient 7 types de prairies comme de très bonnes sources de pollen. Les abeilles, on l'a dit, et donc, sont utiles à la reproduction des 3/4 des plantes dans le monde. Et en transférant le pollen des fleurs mâles vers les femelles, bien sûr, donc c'est le principe de la pollinisation, et savoir quels sont leurs mets de choix, quoi, qu'est-ce qu'elles préfèrent, eh bien, ça peut bénéficier in fine à toutes ces plantes, parce que si les colonies sont bien nourries, elles peuvent donc mieux résister aux pesticides et aux pathogènes, à tout ce qui fait pression sur elles. Donc on va pouvoir utiliser ce phénomène naturel de la pollinisation, et donc on pourra favoriser les végétaux qui vont être un petit peu prisés par ces abeilles. Mais voilà, 1500 danses d'abeilles décryptées par des scientifiques. Je pensais qu'on en savait déjà pas mal, mais là, on va encore un petit peu plus loin dans la recherche et dans l'explication de ce nouveau mode de communication. J'essaierai tout à l'heure, Carole, de te...
Non, c'est pas obligatoire.
Non, mais je vais te localiser la voiture pour rentrer et tu me diras si tu arriveras à comprendre ma propre danse du ventre. Je n'ai aucune transition pour la suite.
Je sais où est la voiture, donc je pense que je me débrouillerai par mes propres moyens. Faisons comme ça. Oui, je vais prendre les clés tout de suite. Eh bien non, justement, on reste en fait dans le même domaine, c'est-à-dire l'étude du comportement de nos chers animaux. Et cette fois-ci, on va s'intéresser aux sèches. C'est une étude en fait passionnante relayée par Science Post en février qui suggère que les sèches se priver de nourriture le midi si elles savent qu'il y aura un bon repas le soir. Alors, on connaissait déjà l'intelligence de ces céphalopodes et elles font, c'est un modèle animal en fait qui fait l'objet de nombreuses études, notamment à Caen. Et d'ailleurs, cette étude, elle a été récemment publiée donc, par des chercheurs, justement des universités de Cambridge et de Caen. Et elle suggère que les sèches, justement, ont des compétences très intéressantes, puisque, Jean-Noël, est-ce que ça t'est déjà arrivé justement de priver de manger dans la journée parce que tu savais que tu allais faire un bon restaurant le soir, manger plus léger en attendant.
Attention, tu dis priver ou manger plus léger. Manger plus léger, oui, évidemment.
Voir
parce
se priver.
Que tu te préserves. Mais alors se priver, je ne pense pas que ça m'arriverait. Mais je ne suis pas aussi intelligent et persévérant qu'une sèche.
Exactement. Donc voilà, ça peut nous arriver en tout cas, et peut-être à nos chers auditeurs. Mais en fait, d'un point de vue biologique, ce type de prise de décision paraît assez anodin chez les humains, mais en fait, ça témoigne de capacités cognitives complexes.
Bien sûr.
Et justement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir étudier ses capacités cognitives et découvrir des choses qu'on ne soupçonnait pas forcément sur d'autres donc, animaux et notamment les sèches. Alors, dans le cadre des travaux que je vais détailler, les chercheurs ils ont voulu tester la flexibilité du comportement prédateur de ces céphalopodes en fonction de changements environnementaux et plus précisément en fonction de ce qui pourrait arriver dans un futur proche. Donc, pour ce faire, ils ont mené deux expériences. Pour la première, des sèches ont été divisées en deux groupes. Dans le premier, les chercheurs offraient un crabe aux céphalopodes dans la journée et une crevette tous les soirs. Voilà, donc deux repas. Dans le deuxième groupe, les sèches recevaient un crabe tous les jours et de temps en temps, mais donc de manière aléatoire, elles avaient une crevette le soir. Alors, ce que nous explique Pauline Billard, qui est la principale auteure de l'étude, c'est qu'au sein de ce deuxième groupe, les sèches ne pouvaient pas prévoir quand elles allaient recevoir une crevette le soir. Après 16 jours, on a bien sûr échangé les conditions et les sèches qui avaient de la crevette tous les soirs n'en ont reçu plus que de manière aléatoire et puis inversement. Donc voilà, il y avait bien ces deux conditions-là et puis après, on a inversé les environnements donc pour chacun des groupes. Les résultats, qu'est-ce qu'ils ont montré ? Eh bien que les sèches qui bénéficiaient d'une crevette tous les soirs, elles présentaient un comportement prédateur sélectif. Autrement dit, elles arrêtaient de manger le crabe dans la journée et ne mangeaient que la crevette le soir. Donc, ce qu'on ne précise pas dans l'article, mais j'imagine, c'est qu'il y a une préférence pour la crevette, visiblement.
Ah bah c'est l'air d'être une petite récompense.
Alors pourtant, le crabe...
Chacun ses goûts, car...
Voilà, chacun ses goûts.
Mais comment il mange un crabe ?
C'est une bonne question. Je ne suis pas spécialiste, mais j'imagine qu'elles ont tout ce qu'il faut pour pouvoir le déguster. Oui, c'est redoutable, une sèche. Hein. On regardera les vidéos de sèches en train de s'alimenter. Je disais que justement, le premier groupe où elles ont une crevette tous les soirs, eh bien, elles arrêtaient de manger le crabe dans la journée. À l'inverse, les sèches qui bénéficiaient d'une crevette de manière aléatoire présentaient un comportement dit opportuniste, c'est-à-dire qu'elles mangeaient les crabes et les crevettes.
Pour moi,
c'est celles-là qui ont raison, mais non, je plaisante. Non. Cela signifie que les sèches qui avaient appris qu'il y aurait forcément de la crevette au dîner ont volontairement séché de manger. Oui, c'était drôle. Elles ont cessé de manger la journée. Au contraire, celles qui ont appris qu'il n'était pas certain qu'il y ait de la crevette au dîner ont continué à manger du crabe la journée au cas où. Alors, la chercheuse poursuit en nous expliquant que, de plus, on a observé que lorsqu'on inversait les conditions, les sèches étaient capables de modifier leur comportement prédateur de manière adaptée aux changements environnementaux en moins d'une semaine, ce qui est donc assez rapide.
Ah ouais ! Ah ben, elles ont tout de suite compris. Hein. Oh là là, on n'est pas certain d'avoir notre crevette, vaut mieux manger ce qu'on a sous le nez.
Oui. Alors, la seconde étude était un peu différente. Là, l'idée, ça consistait à proposer aux sèches deux crabes par jour et deux crevettes un soir sur deux. On a bien suivi. Donc ici, c'est ce qu'on appelle en fait un pattern répétitif et non aléatoire. Un soir de la crevette, un soir pas de crevette. Et les chercheurs se sont ensuite assurés que les sèches avaient bien compris la règle. Crevettes disponibles un soir sur deux. Encore une fois, donc, les résultats ont montré que lorsque les sèches avaient la possibilité de manger de la crevette le soir, elles ne mangeaient pas les deux crabes la journée. Ce qui prouve que, enfin, moi je me dis, ça doit être du coup être des quantités qui sont largement suffisantes
en fait,
pour qu'elles soient rassasiées.
C'était ça que je voulais savoir. Est-ce qu'un crabe, c'est suffisant ?
Bah, apparemment, parce que sinon elles ne se priveraient pas de manger. Surtout qu'en général, les animaux, entre guillemets, quand ils sont captifs, ils ont tendance à plus se nourrir parce que justement, ils ont plus de nourriture à disposition et ils ne la laissent pas particulièrement. Alors, En fait, bref, ne nous éloignons pas du sujet. Je rappelle, donc, lorsqu'elles savaient qu'elles avaient la possibilité de manger la crevette le soir, elles ne mangeaient pas les deux crabes la journée. À l'inverse, si elles savaient qu'il n'y avait pas de crevette le soir, elles mangeaient les crabes la journée.
Ah oui, donc elle était capable de faire dire ce soir-là, je sais que je n'avais pas de crevette que j'ai eu hier. Mais elles arrivent elles ont le même rythme circadien que nous alors ?
Oui. Bah, en tout cas, je pense qu'elles ont de toute façon
été conditionnées,
la plupart des animaux. Puis en plus, de toute façon, elles ont le rythme de nourrissage, elles l'ont.
Donc oui, après, elles
savent quand est-ce qu'elles ont. On va en parler après justement du rythme de satiété. Mais donc elles savent quand est-ce qu'elles vont recevoir la nourriture et elles ont surtout compris la répétition. C'est-à-dire à tel moment elles reçoivent deux crabes, à tel moment elles reçoivent une crevette, à tel moment il n'y en a pas. Donc là-dessus, je pense que c'est assez similaire. Donc ce qu'on comprend dans la première expérience, c'est bien que si elles savent qu'elles reçoivent la crevette le soir, elles sont capables de se priver la journée d'attendre elles préfèrent attendre la crevette, c'est ça. Et si elles la reçoivent de manière aléatoire, bon, elles le mangent le crabe au cas où, c'est ce qu'on avait vu. Et dans la deuxième, c'est qu'on voit qu'en plus, elles ont les capacités de retenir le pattern répétitif et donc de savoir quand elles ont besoin de manger les crabes, en fait, c'est ça. Ouais. Et quand, ça vaut le coup d'attendre la crevette parce qu'il y aura crevette. Donc, ce qui est quand même hyper intéressant. Et donc, la sèche montre qu'elle est capable de prendre une décision dans le présent, c'est-à-dire manger ou non le crabe, sur la base d'informations passées. Je sais que j'aurai de la crevette ou pas ce soir. Ce qui aura des conséquences dans le futur proche, si je ne mange pas maintenant, je pourrais manger de la crevette ce soir. De plus, en fait, la sèche ne suit pas son rythme de satiété normal. C'est ce qu'ont vu les chercheurs. C'est-à-dire que, par exemple, si elle n'a pas eu de crevette la veille au soir, ça signifie, parce que justement, on a dit, le jour où elle a la crevette le soir, elle ne mange pas le crabe. Donc, si elle n'a pas eu sa crevette la veille au soir, elle a juste eu son crabe la journée. Je rappelle, je refais l'historique, il faut suivre.
J'ai rien compris.
Alors, je refais la chronologie.
Oui.
Le jour où elle ne reçoit pas la crevette le soir, elle a mangé ses crabes la journée.
Voilà. Et mais elle sait qu'elle aura une crevette demain.
Oui, mais donc la veille au soir, elle ne mange pas sa crevette, ce qui veut dire qu'elle passe la nuit sans avoir mangé. Et pourtant, la journée suivante, vu qu'elle a la crevette, elle ne mange pas le crabe, hein, alors qu'on lui met à disposition.
Mais...
Donc, elle peut, c'est ce que disait le chercheur, elle peut quand même se retenir de manger le crabe le lendemain, car elle sait qu'elle aura la crevette le soir.
Ah, mais elle est droguée à la crevette, c'est pas possible.
Bah, apparemment, ça c'est ce qu'ils oublient de préciser.
Mais quoi, je pense.
Bah, comme ça, moi aussi, c'est ce que je dirais, mais visiblement, en tout cas, ça fait une différence pour la sèche. Après, il faut regarder, c'est pas un très gros animal, donc
oui,
je sais pas quelle quantité
ça
mange. Oui, non, mais même après pour les sèches, c'est pas non plus. Je sais pas quelle quantité ça a besoin de nourriture.
Tu n'as pas de copine sèche ?
Non. Et donc. Donc je trouve c'est ça qui est intéressant quand même dans la réflexion, parce que sinon on se dit bon bah elle mange tous les jours, oui, mais ça veut dire qu'elle attend plus de 24 heures avant de, parce qu'elle a mangé au cours de la journée son crabe et la crevette elle ne l'aura que le soir, ce qui n'est donc, là on nous le dit, pas son rythme de satiété normal.
Mais oui,
on imagine
oui.
qu'elle s'alimente dans la nature naturellement assez régulièrement
oui,
en fait
même.
Au cours de la journée, voilà. Donc c'est une étude qui est extrêmement intéressante et qui nous montre que les sèches peuvent s'adapter rapidement au changement de leur environnement en utilisant une expérience passée. Donc voilà, sur la base d'informations qu'elles ont vécues, elles peuvent décider ou non, et elles essayent de s'adapter au mieux, surtout à leur environnement.
Très bien.
C'est pour ça que je suis passionnée par le comportement animal. Je trouve ça extrêmement riche, et on n'a pas fini en fait d'être surpris.
Oui, parce que ça a l'air, premier abord, assez insignifiant, une sèche, quelque part, tu te dis...
Alors,
ça
a des capacités cognitives et c'est capable de faire... C'est vraiment un sujet d'étude. Il y a énormément d'études sur la sèche.
Je n'ai aucune transition, je ne la trouverai pas, concernant l'annonce récente du président américain Donald Trump sur la création d'une Space Force. Ça fait craindre une escalade des tensions entre les puissances spatiales et c'est dans ce contexte qu'il y a eu un genre de balai totalement inhabituel de satellites russes autour d'un satellite espion américain. Ça a suscité la colère de Washington. Ces deux satellites ont été détectés par le réseau de surveillance du ciel des États-Unis en train de suivre un de leurs satellites espions. Loin d'être un cas isolé, cet incident est du point de vue américain inquiétant et peut créer une situation dangereuse dans l'espace. C'est ce qu'a déclaré le général John Raymond, le chef des opérations de la force spatiale, dans une déclaration récente au niveau des États-Unis. Ce qui inquiète le gouvernement américain, c'est moins le risque de collision. Ils sont situés à une distance de sécurité. Qu'est-ce que tu nous fais avec le micro ?
Je règle. Ah, tu m'entends, pardon.
Oui, je vais couper alors, pendant que tu règles ton micro. Ce qui inquiète le gouvernement américain, quotidien, c'est moins le risque de collision, parce qu'ils sont situés à une distance de sécurité de plus ou moins 160 km. Donc, ce n'est pas nécessairement ça qu'une forme en fait, d'espionnage spatial qui va se matérialiser par des cyberattaques susceptibles d'accéder aux données du satellite, voire de rendre inopérant ou brouiller les capteurs. Et le risque de destruction d'un satellite étant quasiment nul, dans le sens où les milliers de débris générés deviendraient également une menace pour la flotte de satellites de l'attaquant, c'est pas ça. C'est vraiment dans l'idée justement de pouvoir accéder aux données du satellite. Ce n'est pas la première fois qu'un satellite russe se fait surprendre. En septembre 2018, dans un discours prononcé au CNES, le CNES, Centre National d'Études Spatiales, sur les enjeux de l'espace pour la défense, Florence Parly, ministre des Armées françaises, révélait que le satellite russe Launch Olymp avait été surpris à proximité immédiate du satellite de télécommunication militaire franco-italien, vraisemblablement pour tenter de capter les communications cryptées du satellite. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de ce même satellite, mais d'un satellite de type particulier qui, selon la Russie, a été conçu pour inspecter ses propres satellites, détecter les dommages et, le cas échéant, les réparer. Si on se fie aux commentaires du général américain John Raymond, ce satellite aurait été lancé en novembre 2019, donc il n'y a pas longtemps, puis aurait ensuite libéré un second satellite. C'est génial, c'est un film d'espionnage et de science-fiction.
C'est un James Bond, oui.
Ce second satellite plus petit et le plus préoccupant, il pourrait être doté de brouilleurs ou de lasers de façon à empêcher le fonctionnement normal du satellite qui va être attaqué, voire de détruire certains de ses composants. Enfin, en dernier recours, il pourrait être utilisé comme une arme, une hypothèse crédible quand on sait que la Russie a déjà des satellites tueurs potentiels en orbite autour de la Terre depuis 2013. Cela dit, les États-Unis ont beau jeu de se plaindre du comportement de Russes. C'est un petit peu, bien sûr, la guerre froide qui revient. Oui. En plus, entre deux présidents russes et américains qui ont aussi un comportement et un caractère qui ne va pas dans un côté pacifique. En tout cas, si la Russie et la Chine développent de telles armes, les États-Unis ne sont évidemment pas en reste. Leur drone spatial suscite les plus vives inquiétudes auprès des ennemis déclarés de Washington. C'est le Bureau des capacités et projections rapides de l'US Air Force qui gère un petit peu tous ces programmes de recherche. Se borne à rappeler que ce véhicule sert, je cite, à des programmes de réduction de risque, des expériences et des opérations conceptuelles pour développer l'usage de véhicules spatiaux réutilisables. Tu m'étonnes, Baliverne, ce véhicule est doté d'une capacité de manœuvrabilité dans l'espace qui lui permet de modifier son orbite et de s'approcher d'autres satellites. Il est également aussi susceptible de libérer ce type de petits satellites depuis sa soute. Bref, on est dans une guerre dans l'espace qui a déjà commencé. Cet incident récent ne pouvait pas mieux tomber pour la Maison-Blanche, qui vient de demander il y a quelques jours un budget de 15 milliards de dollars pour sa force spatiale. En 2018, les États-Unis comptaient 849 satellites en orbite, dont 167 militaires. C'est une guerre qui ne dit pas encore son nom, mais oui, qui prend de plus en plus d'essor. On avait déjà parlé, je crois, la semaine dernière, de ce risque potentiel de pouvoir hacker les satellites, et de prendre le contrôle. Là, on est aussi dans un espionnage assez sophistiqué avec des grandes puissances. Ça fait toujours peur. On ne parle pas trop précisément de ce que fait l'Europe dans ce cas-là, mais ça ne veut pas
dire...
Elle regarde et elle compte les points
et elle espère que ça ne retombera pas sur elle.
C'est ça qu'on peut souhaiter, mais effectivement, c'est encore un autre aperçu de ce qui se passe dans l'espace, aussi intéressant qu'on souhaite évoquer dans cette émission. Il nous reste 7 minutes pour un dernier article.
Oui, mais je pense que je vais te laisser nous présenter encore quelques... Tu sais conclure les émissions, Jean-Noël.
J'ai
gardé pour la semaine prochaine un article assez insolite sur justement le parfum de la rose. Mais là, je te laisse conclure, non ?
Le parfum de la rose, ça peut être intéressant parce que, à mon avis, il y a des choses qu'on va apprendre la semaine prochaine qui pourrait être utile. Non, je voulais vous parler, on parle toujours un petit peu, alors pas nécessairement d'espace, mais de ce baptême de l'air totalement réussi pour le Persistent High Altitude Solar Aircraft. C'est un nom compliqué. expliquer, c'est un drone solaire qui a été conçu par une filiale de BAE Systems. Il a effectué son premier vol en Australie du Sud en survolant une base de l'Air Force, Royal Australian Air Force. En fait, cet appareil, ce drone, il a une envergure de 35 mètres, c'est quand même pas anodin, et il est conçu pour évoluer dans la stratosphère, c'est-à-dire jusqu'à 21 km d'altitude, ce qui n'est pas non plus anodin. Il est ultra léger, 150 kg, ce qui, pour un drone de cette envergure, est quand même assez léger, même si au premier abord, ça peut paraître important, mais là, 150 kg, on considère que c'est totalement ultra léger pour un tel dispositif. Il est censé pouvoir voler jusqu'à un an sans se poser, grâce à ces panneaux solaires qui vont alimenter ces batteries lithium-ion et qui vont faire fonctionner ces deux moteurs. C'est ça qui est quand même totalement génial. C'est un drone solaire, il va pouvoir voler pendant un an, il ne va jamais pouvoir se poser. Il peut atteindre une vitesse de 145 km/h quand même, mine de rien. Ce qui est quand même aussi assez intéressant.
Impressionnant,
ouais. Il n'a fallu que 20 mois pour concevoir deux prototypes prêt pour prendre les airs, c'est ce que souligne donc son constructeur qui, d'après lui, explique que ce fameux drone solaire représente une alternative durable et abordable aux satellites, on en revient toujours, combiné à la flexibilité d'un avion. Tu combines un petit peu les deux, et c'est ça qui pourrait être intéressant. Il pourrait se destiner à diverses applications civiles et militaires, la surveillance maritime, la surveillance des frontières, la détection des incendies, ou encore un petit peu tout ce qui va être relais télécom pour toutes les communications mobiles et Internet. Donc on voit très bien les applications intéressantes qui peuvent découler de ce drone solaire. Il y a d'autres essais en vol qui sont prévus dans le courant de cette année, donc on essaie d'avoir un petit peu peut-être des informations, et puis vous pourrez, je l'espère, avoir quelques vidéos également disponibles sur Internet avant les premières mises en service chez des clients dans les 12 mois suivant la fin du programme d'essai en vol, en clair pour 2021. Ça pourrait être totalement opérationnel. Rappelons qu'Airbus travaille lui aussi sur un drone solaire stratosphérique qui s'appelle Zephyr S, qui a battu un record de durée de vol en août 2018, et il en est de même pour Boeing, dont le drone solaire autonome qui s'appelle Odysseus a été dévoilé également en 2018. Alors 2018 était la grande année des drones solaires, mais par contre ce drone de Boeing n'a plus fait parler de lui depuis. Décidément, pour Boeing, c'est pas non plus la panacée en ce moment.
Non, en effet.
C'est assez compliqué pour Boeing. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que l'idée des drones, pour ceux qui suivent cette émission depuis plusieurs années, on a suivi un petit peu cette technologie. Au départ, c'était essayer de faire voler quelque chose, de pouvoir le manier. Après, il y avait l'idée de pouvoir transporter éventuellement des choses de plus en plus lourdes, bien sûr. Là, on est totalement sur des choses totalement différentes. On a vraiment passé un stade avec l'idée, quelque part, d'avoir un peu une idée de satellite, mais beaucoup plus maniable, beaucoup moins compliqué à construire, beaucoup moins onéreux également, et qui pourrait ainsi voler pendant un an sans que ça se pose. Donc ça a vraiment des applications totalement intéressantes, et on voit que cette technologie des drones a pris un essor, enfin, on ne s'en est même pas rendu compte, parce qu'il y a 2 ans, on était tout content quand on apprenait que, je crois que c'est Amazon avait envisagé de pouvoir livrer ses colis par drone. Et là, on est en train de parler de surveillance maritime ou de frontières, de surveillance d'incendie de grande ampleur, avec un engin qui va voler tout seul grâce à ses panneaux solaires pendant un an sans se poser. Il n'y a même pas de ravitaillement, il n'y a même pas de... Enfin, c'est totalement fascinant.
Ça ouvre un champ de possibilités qu'on n'avait pas jusque-là. Non, là, c'est certain.
Non, et on voit des applications. Et là, évidemment, ce sont les applications qui sont dévoilées.
Oui.
Je rappelle qu'il y a des applications militaires dont on sait très bien ce qui peut se passer, parce que on considère qu'il est ultra léger, 150 kilos. Ça veut dire que derrière, on peut y associer, et on va y associer de plus en plus quand la technologie va se développer, des charges de plus en plus lourdes. On sait très bien ce que peuvent contenir ces charges également d'un point de vue militaire. Donc voilà, on voit très bien qu'on rentre dans une nouvelle ère au niveau de ces drones qui, du coup, vont peut-être supplanter l'utilisation des satellites. Allez savoir, parce qu'on voit très bien qu'au niveau satellitaire, c'est quand même de plus en plus contraignant, bien évidemment, puis il n'y a plus trop de place. Alors que là, bon, ça va encore.
Ça peut se poser, c'est-à-dire que ça ne reste pas.
Ça ne reste pas, et puis on est encore pour l'instant dans la stratosphère, oui, dans une zone qui est encore assez
libre et disponible. Voilà. Pas trop de circulation, pas de bouchons.
Comme
encore.
On n'a pas encore réussi à polluer cette zone-là, on va peut-être
essayer. Commencer.
On peut commencer. Donc voilà, c'est parti. Voilà, c'était le dernier article. On a pas mal voyagé finalement,
oui,
au
finalement,
sein de cette émission.
De l'Afrique à l'espace.
De l'Afrique à l'espace. On se retrouve donc la semaine prochaine. Tu nous parles donc de cette rose.
Oui.
Du parfum de la rose. Et ça nous intrigue un petit peu. Ça ne peut que vous inciter, amis auditeurs, à nous retrouver la semaine prochaine sur l'antenne de Graphite. Merci Carole.
Merci Jean-Noël.
À samedi prochain, donc à 12h, pour une nouvelle édition de Biotine, l'émission de science sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Je vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute de nos programmes. À bientôt, au revoir.